Avant la prière, nous voulons lire dans Matthieu chapitre 5 plusieurs versets qui s'ajustent au texte du cantique que nous venons de chanter. Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis les affligés, car ils seront consolés. Bénis les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jusqu'ici, cette précieuse parole. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous venons devant ta sainte face et dans la crainte et dans le respect devant toi, le Saint Dieu, et devant ta parole, nous voulons le faire. Que tu puisses nous accorder la disposition juste à toi et à ce que tu as dit. Car ce ne sont pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté du Père, qui ont fait la volonté du Père au ciel. Seigneur, autrefois, tu t'es assis et tu as enseigné tes disciples. Aujourd'hui, viens parmi nous et enseigne-nous, parle avec nous, accorde-nous les instructions, les enseignements dont nous avons besoin. Accorde ta grâce pour parler et ta grâce pour écouter. Sauve ceux qui ne sont pas encore sauvés et délivre ceux qui sont liés. Guéris ceux qui sont malades. Délivre de tout droit de l'ennemi et délivre affranchi complètement. Que ta parole soit confirmée pendant la prédication. Ô Seigneur, ce n'est pas un homme qui nous parle. C'est toi. Et ça, nous l'avons reconnu. C'est pour cette raison que nous venons nous rassembler pour écouter ta parole. Tu sais toutes les difficultés, toutes les requêtes, tu connais toutes les difficultés, toutes les requêtes et toutes les maladies et tout ce qui est dans le cœur de chacun individuellement. Dieu fidèle, exauce-nous. Nous venons à toi et nous nous approchons du trône de ta grâce, pas en raison de notre justice, mais sous le couvercle, sous le sang de l'agneau. Seigneur, nous voulons marcher sur ce chemin vivant qui conduit au Dieu vivant. Nous te demandons, accorde-le-nous et que cela nous réussisse. Ôte toutes les pensées, toutes les réflexions, tout ce qui ne te plaît pas et qui pourrait se tenir en obstacle à ton esprit. Ôte cela de nous et que toute la salle soit libre de toute autre domination, de toute influence étrangère, pour que nous soyons entièrement sous ton influence divine, placés sous ton influence divine. Nous te demandons, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous dans ta parole et conduis-nous par ton esprit et fais tout cela par grâce, pour l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Très fraternellement, je voudrais saluer tous, à tous, la bienvenue dans le nom du Seigneur. La raison de notre rencontre est connue, de notre rassemblement est connue. C'est pour nous approfondir dans la parole de Dieu, pour ensemble sonder les Écritures et nous laisser enseigner, corriger et reprendre par Dieu. Au-delà de ça, aussi être préparé pour le jour glorieux, du retour glorieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui avec sûreté reviendra bientôt. Et je voudrais, de manière particulière, à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois, je voudrais très, très fraternellement leur souhaiter la bienvenue. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Un homme qui, une fois, est saisi par la grâce de Dieu et des vérités divines de la parole, est pénétré par les vérités divines de la parole, cela ne le laisse plus. Ce que nous faisons peut être temporaire, mais ce que Dieu fait est fait pour l'éternité. Dieu ne fait rien à moitié, il fait quelque chose qui est toujours entier, qui est toujours complet. Quand nous, les hommes, nous essayons de faire quelque chose, ça va toujours échouer. Mais si nous comprenons que un grand jour de réconciliation de Dieu, un grand jour de réconciliation divine, donc, a eu lieu avec l'humanité, une réconciliation divine, un grand jour divin, et que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et a pris et n'a pas imputé nos fautes, ne nous a pas imputé nos fautes, mais il a même déchiré, effacé l'acte qui nous condamnait et a renversé le mur de séparation qui nous séparait d'inimitié. Et dans son amour éternel, il nous a réconciliés avec lui et a accueilli. Il nous a accueillis. Celui qui, dans la foi, dans son cœur, vraiment a reçu cela, a accepté ça, a la grâce de croire à ça, un tel homme a reçu dans son âme l'ancre divin, un ancre, une ancre divine. Et comme c'est écrit dans Hébreu, et cette ancre pénètre au-delà du voile, et le voile dans le temple s'est déchiré. Alors que Jésus-Christ fut crucifié et a dit, c'est accompli. Une ancre de l'âme sûre et solide. Et précise verset 19. Et par cela, il a été montré que le chemin au trône de la grâce de Dieu, par le sang, est inauguré pour quiconque croirait. A été inauguré et libre pour quiconque croit, peut croire. Donc, si l'ennemi sur le chemin veut nous jeter des obstacles pour que nous puissions trébucher, pensons toujours à cela, qu'il est déjà vaincu. Et même si ce n'est pas encore entièrement manifesté, cela sera manifesté quand l'heure de Dieu pour cela sera arrivée. Pour moi, à chaque fois, c'est un privilège particulier d'être ici et je nomme cela donc, au milieu de l'Europe, au centre de l'Europe, au centre donc, d'un pays qui est béni de Dieu. Et la vérité, et si je dis la vérité, je ne veux pas penser ta vérité et ma vérité, ou bien alors une partie de vérité, des vérités en partie, mais quand je dis vérité, alors je pense, je veux parler de ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Ça, donc cette vérité divine révélée dans sa pureté et clarté, l'annoncer comme de pouvoir l'annoncer comme un témoignage. Je suis reconnaissant au Seigneur pour cette occasion de tout mon cœur qui m'accorde. Beaucoup de salutations, j'ai à remettre beaucoup de salutations de beaucoup de l'Inde et du Pakistan. J'ai eu un voyage riche et il était très nécessaire, ce voyage. Et ce que nous avons appris un peu ici en Europe, par cela, d'autres sont emportés dans ces choses, enveloppés dans ces choses, entraînés dans ces choses, et ils ont besoin d'une réponse divine. Et cette réponse doit leur être donnée, doit leur être apportée toujours des Saintes Écritures. Des Saintes Écritures. Et si, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là pour la première fois parmi nous, qui sont là ici pour la première fois aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans les détails de certaines choses parce que c'est honteux de les mentionner, de devoir apprendre cela et avec un cœur triste. Ce que les hommes ont fait du message divin et comment est-ce que les citations de frère Branham sont sorties de leur contexte et introduit dans un propre programme et un propre concept. Et à tel point que quand on voit cela, on peut tomber malade. Mais Dieu a accordé sa grâce pour exposer son dessein de salut. Et pour cela, je suis aussi très reconnaissant. Et qu'il n'y ait personne parmi nous qui pense en lui-même. Bon, le frère pense qu'il a la vérité et qu'il est seul à la voir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ainsi, mais il y a une chose que je peux dire. Je suis déterminé à cela parce que je suis de la vérité et appelé à rendre témoignage de la vérité. Et aucun mensonge a son origine dans la vérité. Frère Branham l'a dit très clairement. Il avait posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Et il donne la réponse. Un mensonge, c'est tordre la vérité. C'est la vérité tordue. C'est ça, le mensonge. Il y a tellement de vérité dont le sens a été tordu. Mais il n'y a qu'une seule vérité et sur chaque sujet. Et cela m'a, de voir ça, cela m'a renversé intérieurement et même déchiré. Mais même cette annonce-là que le Seigneur est déjà revenu, vous savez, ça c'est connu partout. Mais que maintenant même, il y a des... Les prières ne sont pas faites de manière ordinaire, mais ils ont changé la forme de leur prière qu'ils adressent au Seigneur. Je vais le dire tout de suite comment. Et ils disent, avec cette remarque, maintenant le Seigneur n'est plus notre époux, mais il est... Mais n'est-ce pas, le mariage a déjà eu lieu, le mariage pour eux a déjà eu lieu, il est déjà revenu. Et c'est ainsi que maintenant, il est le mari de l'épouse. Et vous pouvez bien vous imaginer que des gens à haute voix et clairement ont terminé leur prière de cette manière. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon mari. Vous tournez la tête, vous remuez la tête, mais moi je l'ai fait aussi, Je n'ai pas seulement remué la tête, j'ai remué toute la chair devant laquelle je me tenais. Et j'ai encore remué la tête, et la main aussi, et la Bible aussi, et tout ce qui était à ébranler, à remuer. C'est incompréhensible. Mais il y a une chose qui m'a touché le cœur, qui m'a inondé mon cœur, qui est devenu grand pour moi. C'est-à-dire cette pensée que Dieu, dans tout ce qu'il a dit, il conserve la raison. Dieu est resté juste dans tout ce qu'il a dit. Et quand je pense encore à cela, que des frères qui, depuis des années, dans cette salle, étaient assis sur la plateforme ici et nous ont même parlé. Maintenant, ce sont eux qui propagent de tels enseignements. Et cela est encore plus douloureux pour moi. Il y a une chose que nous devons toujours avoir devant les yeux. Pas d'avoir connu un prophète ou bien d'avoir été son ami, mais la relation personnelle que nous avons avec Dieu, cette relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant qui envoie ses serviteurs, les prophètes, matin et soir, est nécessaire, même pour rester sobre, parce qu'il y en a qui abandonnent, ont perdu toutes sortes de normes et de sens. Ils sont restés, ils sont devenus fous et ils chantent les cantiques les plus glorieux, merveilleux, frappent des mains, crient de joie et disent « Le mariage de l'agneau est arrivé pour eux, est déjà là pour eux, est là déjà pour eux, ici, sur cette terre. » D'un tel mariage, je peux m'en passer, et d'une telle gloire aussi. Quand le Seigneur reviendra, ce ne sera pas un enseignement, ce ne sera pas une connaissance, alors lui-même, il sera présent. Il est écrit le même Jésus, comme il a été dit autrefois, qui est monté corporellement au ciel devant vous, visiblement, reviendra de la même manière telle que vous l'avez vu corporellement, visiblement, monter au ciel. Actes des Apôtres 1, verset 11. Mais il y en a des gens, ce sont des gens qui ne connaissent pas les Écritures, connaissent pas la parole de Dieu. Quelqu'un au sud de l'Allemagne peut dire, le prophète a dit, là où les sapins noirs sont, une grande lumière apparaîtra. Et on me demande de manière naïve, frère Franck, dis-nous, qu'est-ce que le frère Branham voulait dire par cela? Et déjà, de nouveau, ma cravate s'est dénouée. Et je leur ai dit, mais frère Branham n'a jamais dit. Oui, c'est ce privilège-là de connaître la Bible, de connaître le Seigneur et de connaître aussi les prédications de frère Branham, de les avoir entendues, écoutées, lues et reçues dans leur cœur. Mais les hommes croient aujourd'hui chaque folie, seulement par la parole telle qu'elle est écrite. Et jusqu'à mon dernier souffle de vie, et que Dieu m'accorde la grâce pour cela, de défendre cette sainte et précieuse parole de Dieu et de l'annoncer sans mélange, sans la raccourcir, sans ajouter ou bien retrancher quelque chose. La prêcher, l'avoir annoncée telle qu'elle est écrite, sans rien laisser, sans rien ajouter. Je voudrais, en ce jour-là, subsister devant le Seigneur, et pas seulement moi, mais le souhait de mon cœur est celui-ci, que tous ceux qui ont écouté la parole puissent aussi subsister devant le Seigneur. De cette vue que beaucoup de frères pouvaient être secourus, et que par cela, beaucoup d'églises et des milliers d'hommes ont été aussi secourus. Et par cela, je suis reconnaissant pour le dernier voyage qui était difficile, mais qui était très nécessaire à cause du peuple de Dieu, pour qu'ils puissent écouter la vérité. Je voudrais vous remercier pour toutes vos prières et j'espère que le Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, nous bénira de la plénitude de sa grâce. Sur la base de cette évolution à laquelle nous ne pouvons rien opposer, si ce n'est la parole de Dieu, et veillez à ne pas nous laisser y entrer, à ne pas nous laisser entraîner, mais discerner clairement et réellement qui et de quel esprit, qui nous parle et de quel esprit et par quel esprit cela est fait. De sourire, mais alors un sourire ne suffit pas. Et la langue lisse, donc de savoir bien parler, ça ne suffit pas non plus. Et il faut que cela soit en accord exact avec tout le témoignage des Saintes Écritures. Et en cet endroit, là-bas, il y avait un endroit où il y avait tout un nombre de frères qui étaient rassemblés. Et ils étaient assis déjà sur du charbon chaud. Et le frère traducteur me disait, il y a beaucoup de questions ici. Est-ce qu'elles peuvent être tous posées? Je lui ai dit non. D'abord, je vais parler. Et s'il y a encore des questions qui sont restées après la prédication, alors elles peuvent être posées. Mais Dieu était avec moi. Et je ressens encore maintenant sa présence. Oh, quand il s'agit de la parole de Dieu, alors le zèle du Seigneur me consume à cause de sa maison et de la troupe des rachetés. Nous ne sommes pas quelqu'un de quelconque. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas quelque chose de quelconque. Et c'est pour cette raison que la responsabilité est d'autant plus grande dans l'annonce de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit remercié après 2h30 d'observation de la parole de Dieu. Ensuite, j'ai dit Amen. Et après le Amen, il n'y a plus eu de questions à poser. Le frère a demandé, est-ce que quelqu'un aurait une requête, une question? Et toutes les questions ont reçu la réponse. Je suis reconnaissant au Seigneur. Je suis lié profondément au Seigneur et reconnaissant pour sa bonté inexprimable et pour aussi la conduite de son Saint-Esprit qu'il accorde par sa grâce. Bien sûr qu'on peut mentionner certaines expériences dans notre génération, prendre certaines expériences et leur donner toute une autre signification. Et il y a une chose que je voudrais mentionner. Sur la photo avec la nuée, là où nous voyons le visage du Seigneur est à voir. La photo de la nuée, c'était l'une des questions, l'un des problèmes, parce qu'il est prétendu, il a été prétendu que cela était le retour du Seigneur en raison de cette parole, qu'il viendra avec ses saints anges. Et il dit, vous voyez, là, il est là, il est venu avec ses anges, avec ses saints anges. Donc, ça veut dire qu'il est ici. Donc, il doit être ici. Mais quand on relit cette parole dans les Saintes Écritures, on remarque à la première lecture qu'il n'est pas du tout question des événements en relation avec son retour. Rien n'est accompli en relation avec les événements de son retour. Ici, dans Matthieu 25, verset 31, lisons ça. Lorsque, Matthieu 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, pas seulement sept, mais tous les anges, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Où? Quand? Est-ce que cela est déjà arrivé? Mais bien aimé, cela est devenu grand dans mon cœur. Et j'ai remarqué que dans la nuée, dans l'apparition du Seigneur, avant l'ouverture des sept sceaux, la tête du Seigneur est à voir, est visible. Et c'est justement depuis hier et aujourd'hui, j'ai dû penser à ça. Christ est la tête, est le chef de l'Église. Nous le voyons là-bas, dans la nuée surnaturelle, nous le voyons en tant que la tête. Mais où sont les membres qui se soumettent à la tête, au chef, et qui se sont laissés insérer dans son corps en tant que membre? Ce que Dieu fait doit toujours avoir une signification. Et elle a aussi une signification. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser introduire dans ce plan de Dieu, dans ce dessein de Dieu. Si Christ, notre Seigneur, avant l'ouverture des sept sceaux, apparaît dans cette nuée de cette manière surnaturelle et a parlé à frère Branham, et que là, nous pouvons le voir en tant que tête, en tant que chef, en tant que tête. Donc, ça semble me dire qu'il revendique sa position de chef, de tête, donc sur tous ceux qui ont compris que nous ne vivons plus dans les jours des dénominations où chacun peut croire et enseigner et interpréter et expliquer tout ce qu'il veut et faire tout ce qui lui semble juste, mais que maintenant, la parole révélée contraignante de Dieu pour tous ceux qui se soumettent à la tête a été apportée. Tous ceux qui ne le font pas ont de toute manière pas de chance d'être insérés dans le corps de Christ. Christ, la tête de l'Église, le chef, c'est ainsi que nous le lisons dans Colossiens, au premier chapitre. Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête a besoin de membres. Et laissez-moi dire cela. La tête a besoin de membres. L'agneau a pris le livre. Il a ouvert les sceaux et a révélé aux rachetés ce qui était caché. Pour quelle raison? Afin que les rachetés écoutent la voix du Rédempteur et se soumettent à lui, la tête, comme corps constitué de plusieurs membres. comme de plusieurs membres, se soumettre à lui. Voilà l'objectif. Car le temps pour ça est arrivé. Et nous pouvons seulement remercier Dieu de ce que le retour du Seigneur n'a pas encore eu lieu. Sinon, sûrement que beaucoup de nous n'auraient pas été prêts pour partir. Mais le Seigneur a, n'est-ce pas, pour toutes choses, un temps et une heure. Il accorde l'enseignement de sa parole par son esprit. Et je crois que tous ceux qui ont le respect nécessaire pour ce que Dieu a fait, qui apportent le respect nécessaire pour ce que Dieu a fait, et dans la crainte devant sa parole, devant son nom, viennent devant sa face. C'est à cela qu'il se révélera. La parole de Dieu que Dieu nous adresse reste cachée seulement pour ceux qui périssent. Aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, si l'évangile, ou bien la parole que nous prêchons, si elle reste voilée, donc elle est voilée pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle devient une puissance de Dieu. L'enseignement, l'instruction est sortie du Seigneur. La correction, l'appel à sortir et la préparation. Tout cela doit avoir lieu maintenant. Dans ce contexte des choses, cette parole que frère Branham, en 1933, et je dis par cela la vérité, il y a plusieurs années, il m'a été dit audiblement à Marseille de 2 Timothée chapitre 4, les premiers versets, cette parole m'a nouvellement inondé le cœur. 2 Timothée chapitre 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, demeure sobre en allemand, en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis d'un évangile, prédicateur de l'évangile, remplis, fais l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile, remplis bien ton ministère. Ça, ce sont les paroles que l'apôtre Paul a adressées. Que Paul a adressé à son jeune collègue pour son ministère. Et ces paroles doivent être une partie de toute ma vie, de tout mon ministère, de tout mon âme. De prêcher la parole de Dieu sans ajouter, sans retrancher, sans faire de compromis, de continuer à porter la parole de Dieu. Une parole particulière est écrite dans le prophète Jérémie, au chapitre 23, verset 21, verset 21 et verset 28. Jérémie 23. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ou bien alors en allemand donné un mandat et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. En allemand, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Verset 28. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. En allemand, qu'il annonce ma parole selon la vérité. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Quelle pensée merveilleuse ici est exprimée. Je le répète encore, nous ne sommes pas quelque chose de quelconque, mais nous voulons, avec un cœur sincère, appartenir à l'Église du Dieu vivant. Et ici, le froment, c'est le blé. Nous voulons appartenir à l'Église du Dieu vivant, dans lequel la parole de Dieu est prêchée, et pas les paroles d'hommes ou bien les commandements d'hommes. Et cela est contraignant pour chacun de nous sans exception. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et ça, je le dis dans la crainte devant le Seigneur. Dans tout le mouvement de l'esprit depuis ce changement du siècle, des hommes ont eu beaucoup de songes, jusqu'à aujourd'hui encore. Ils ont vu des visions. Ils ont parlé en autre langue. Ils ont interprété. Mais tout cela doit être examiné. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons être influencés de deux sources, d'inspiration. Mais ce que nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu, personne n'a besoin de l'examiner, de l'éprouver. La parole de Dieu est déjà éprouvée sept fois. C'est ainsi que c'est écrit. Mais si quelqu'un a un songe, qu'il le raconte. Si quelqu'un a une révélation, qu'il puisse le dire, de quoi il s'agit. Mais ça doit être prouvé. Et tout ce qui concerne l'Église, toute l'Église du Dieu vivant, ne vient pas de ton songe ou bien de mon songe, mais doit venir de la partie prophétique de l'histoire du salut. Et cette partie prophétique n'est pas rêvée, mais elle est ici très clairement et réellement écrite ici dans la Bible. Si par des conduites personnelles de l'un ou bien de l'autre, par le Seigneur, quelqu'un reçoit une instruction, alors cela est bien et juste. Nous souhaiterons avoir plus des choses surnaturelles de Dieu. Et comme Paul autrefois a écrit aux Corinthiens, que nous puissions en avoir même toute une plénitude. Mais le service dans ce temps, dans cette époque, n'est pas la question, qu'est-ce que tu as eu comme songe, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé. La question aujourd'hui, ce qui est important, c'est une autre question, c'est-à-dire le message contraignant de Dieu adressé à son Église. Et il ne s'agit pas de songe ou bien de ce que le Seigneur a révélé à quelqu'un. Et les songes, les révélations, parler en autre langue, interprétation, même les prophéties, peuvent et sont assez souvent, ou alors venus du propre cœur de la personne, ou bien alors, comme toujours, ça n'a pas d'importance comment elles sont venues. Mais ici, dans la parole de Dieu, nous avons affaire à la parole infaillible de Dieu. On n'a pas besoin de prouver, qu'on n'a pas besoin d'éprouver, de tester. Il y a eu certaines années où je n'avais pas compris, entièrement compris, que ici, il ne s'agit pas de la continuité, nous ne sommes pas la continuité d'un mouvement pentecôtiste, mais que Dieu a fait un nouveau commencement pour nous faire sortir des credos et de la Babel qu'on aurait encore gardé avec nous, pour nous faire sortir de toutes ces choses, pour nous ramener à la clarté absolue de sa parole et pour que nous en soyons pénétrés. Combien de fois moi-même, après les prédications puissantes qui vraiment étaient une parole de Dieu envoyée du ciel, j'ai attendu que encore quelqu'un apporte une prophétie. Et je n'étais pas le seul. Il y en avait plusieurs qui attendaient après une prédication que quelqu'un prophétise. Et toute l'assemblée attendait que à la fin, la parole du Seigneur vienne. Et voilà, la parole du Seigneur n'était pas à la fin. La parole du Seigneur était pendant la prédication. Et à la fin, et malheureusement, assez souvent, les pensées des cœurs, les pensées des propres cœurs ont été exprimées en prophétie, comme une prophétie. Et c'est peut-être que Dieu a dû donner une fin à cela pour pouvoir faire un vrai commencement. Un homme qui a un but devant lui, il doit commencer à marcher sur le bon chemin et placer ses pieds de la foi sur ce chemin. Il ne peut pas comme ça aller à droite et à gauche et puis espérer atteindre le but. Et comme ça marcher comme un serpent, comme ça tort à droite et à gauche et puis ensuite et puis espérer atteindre le but. Non. Que le Seigneur soit remercié. De ce que, après toutes ces années par lesquelles nous sommes reconnaissants, je ne veux pas les avoir manquées. Même les expériences les plus amères et désagréables qui auraient pu même coûter la vie à un homme ont servi à quelque chose. Si par cela nous en avons tiré la leçon, les leçons divines pour pouvoir ensuite épargner le peuple de ces choses en apportant ces leçons qu'on a apprises. J'ai jamais appris qu'un homme, par la parole de Dieu, aurait été confus, ou bien alors aurait échoué, ou bien aurait succombé. J'ai expérimenté la chose différente. À chaque fois, la parole de Dieu m'a aidé, m'a corrigé, m'a repris. Et dans ce que le Seigneur me disait, dans ce que le Seigneur disait, même dans sa correction qu'il m'a adressée, j'ai ressenti son amour. Quand notre Seigneur ne nous condamne pas, il nous corrige, mais il ne nous condamne pas. Et j'aimerais encore exprimer cette pensée. Et que celui qui a entendu ma parole apporte fidèlement, selon la vérité, ma parole. Pas seulement qu'il annonce ma parole, mais qu'il apporte selon la vérité, fidèlement, donc en allemand, selon la vérité. Et à cela, ça juste que toute parole qu'on a vraiment reçue de Dieu est toujours en accord avec toutes les vérités de la parole de Dieu, doit être laissée en accord avec toutes les vérités de la parole de Dieu pour que ce soit un témoignage complet, sans contradiction quelque part. Et si nous pensons au retour du Seigneur, alors nous n'avons pas seulement à exprimer des pensées là-dessus, mais la parole de Dieu. Nous avons à lire la parole de Dieu concernant cet événement. Il y a ce merveilleux verset dans 1 Thessaloniciens, au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même, pas un message, pas un cri de réveil, pas une révélation, pas une colonne de feu, pas un ange, mais le Seigneur lui-même,
à son cri de réveil, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lui-même descendra. Celui qui parle du retour du Seigneur en tant que dans la nuée et dans différentes sortes de formes veut exposer le retour du Seigneur comme ça, dans une nuée, etc. Et ça, je vais vous le dire. Il a un esprit antichrist. Je ne le dis pas comme ça à haute voix pour que vous n'ayez pas un arrêt de cœur. Quiconque ne confesse pas que le Seigneur Jésus-Christ revient de la même manière telle qu'il est monté corporellement, visiblement au ciel. Cet homme a un esprit antichrist et est sous un esprit antichrist. Vous pouvez vous-même lire dans la parole de Dieu. Il y a deux versets bibliques. Le premier se réfère au retour du Seigneur, à la venue du Seigneur autrefois, et le deuxième à son retour maintenant. Dans l'épître de Jean, vous pouvez lire clairement cela. Dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas ainsi publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Ça, c'est le passé. Ça, c'est clair. Ça concerne la première venue. Mais lisez ce qui est écrit dans 2 Jean, au verset 7. Car plusieurs faux docteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair, en allemand. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Pas est venu en chair, mais venant en chair, apparaissant en chair. C'est très facile de faire de celui qui est à Rome l'antichrist. C'est seulement facile. Il suffit de répéter ce que d'autres ont déjà dit. Mais Dieu nous a accordé la possibilité de pouvoir examiner tout, éprouver tout. Et j'ai toujours cherché l'erreur en moi-même, avec tous les frères. Quand la relation n'était pas là et la communion, parce que justement il n'y avait pas d'accord dans la parole de Dieu, j'ai cherché l'erreur chez moi. Mais aujourd'hui je sais où l'erreur est. Chaque esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ revient de la même manière, donc corporellement, visiblement, corporellement, tel qu'il est monté au ciel, acte 1, verset 11, est sous une influence antichrist. Il peut parler du prophète, il peut parler de l'amour de Dieu, il peut parler, dire tout ce qu'il veut, utiliser. La parole de Dieu reste vraie. Et avec cela, cela a été décidé par Dieu une fois pour toutes. Si quelqu'un vous dit, oui, le Seigneur est déjà revenu. Lisez Matthieu chapitre 24. Est-ce qu'il y a 20 ans ou bien 10 ans, vous aurez pu croire que des hommes pourraient vous dire sérieusement que Jésus-Christ est ici? Et tous disent, oui, il est ici. Lisez Matthieu 24, verset 23. Et ils sont enthousiasmés. Vous savez ce que la parole de Dieu dit? Oh, comme je suis reconnaissant. Comme nous sommes reconnaissants pour cette parole. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Alléluia. Ça, C'est la sainte parole de Dieu. Et c'est ainsi que cela sera lors du retour de notre Seigneur. Si des frères disent que la résurrection a déjà eu lieu, alors je me pose la question, où est-ce qu'elle a eu lieu? Et alors il est enseigné que les sépulcres, c'était les dénominations, et que maintenant, nous sommes sortis de ces sépulcres. Je ne peux pas vous dire tout ce qui est raconté. Quelqu'un qui a un chapeau, son chapeau va se lever sans l'aide de sa main. Quand on entend les fabrications d'enseignements qui sont enseignées partout, on pourrait, comme le Seigneur autrefois, prendre un fouet et renverser tout et encore donner des coups sur le dos de ces gens et dire, vous avez fait de la maison du Seigneur une maison de voleurs. Oh, mes bien-aimés, comment est-ce que nous devrions pas estimer la parole de Dieu et aimer la parole de Dieu avec tout le respect, l'accepter, la recevoir dans son contexte pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Beaucoup se sont sentis forts et ont pensé être maître dans les Écritures. Et voilà, parce qu'ils n'étaient pas affermis dans la parole, ils sont devenus le sacrifice de toutes ces erreurs. Et ici aussi, la parole de Dieu ça se confirme en ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité et ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité. Ils n'ont pas eu l'amour en eux pour la vérité. Alors Dieu a dû leur apporter une puissance d'égarement. Si aujourd'hui, en raison de mon dernier voyage, avec un cœur humble, avec un cœur douloureux, avec un cœur qui a de la douleur, je dis d'avoir pris contact avec ces gens-là qui, je regrette d'avoir pris contact avec ces gens qui étaient enthousiasmés de ce que Dieu a fait dans le ministère du frère Branham, etc., du prophète, et qui en ont parlé. Je ne le dis pas pour un certain motif, pour vouloir quelque chose à quelqu'un, non. Mais seulement parce que j'ai vu combien de milliers de personnes viennent sous cette influence où ce n'est pas leur place de venir. Et j'ai toujours pensé, durant toutes ces années, un frère est un frère, un ami est un ami, un prédicateur est un prédicateur. Et on pensait que tous ont leur place dans le royaume de Dieu. Dans le déroulement des années, j'ai fait suivre des milliers d'adresses de tout le domaine anglais du monde entier. J'ai dirigé plein d'adresses. Je les ai fait suivre là-bas, vers Jeansonville. Et aujourd'hui, de là-bas, tous, n'est-ce pas, de partout, peuvent diriger tous et faire ce qu'ils veulent. Dans ce sens, dans cette pensée et pour cette raison, je regrette beaucoup d'avoir fait ça. Je n'ai pas à 100% et exactement et pris assez au sérieux ce qui a été dit autrefois. Ce qui m'a été dit autrefois. Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Je t'enverrai. Je pensais que... travaille avec ces amis-là. Ils étaient amis de frère Branham. Ils étaient avec frère Branham. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a dit ça? Mais bien les frères, de recevoir un mandat du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. On doit faire seulement ce qu'il nous a dit et rien d'autre. Et là, le jour arrive où on doit soi-même se rendre compte devant la face de Dieu et constater. Là, tu as pensé humainement. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Bon. Dieu a conduit tout ainsi que les choses ont changé. Et ce changement doit être pour moi et pour nous tous et pour tout le peuple de Dieu être une bénédiction et pour un salut puissant. Il faut que d'une certaine manière et bientôt ce soit manifesté qui est de Dieu, qui est envoyé de Dieu, vraiment envoyé de Dieu, qui est déterminé à porter sa parole, a annoncé sa parole? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui le fait seulement comme ça, par enthousiasme, pour après être le sacrifice d'un faux enseignement et ensuite, de la même manière, enseigner les autres de la mauvaise manière, mal influencer, mal enseigner les autres? Comme il est écrit que dans les derniers jours, pas avant les derniers jours, mais dans les derniers jours, à la fin des jours. Et nous sommes maintenant à la fin des jours. Des hommes diront, Christ est ici, Christ est là. Matthieu 24, verset 33. Non, selon la parole de l'Écriture, il est présent dans les réunions des saints. Il a promis, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là je suis parmi eux. Et il est aujourd'hui, parce que nous croyons sa parole, il est parmi nous. Ça, j'en suis certain. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui sont restés vivants seront transformés en un clin d'œil. Il n'y a pas de prédication là-dessus à tenir, ou bien de discussion à faire. Il y a qu'un grand événement dans l'histoire du salut. Le Seigneur reviendra quand le Seigneur vint la première fois, autrefois. Simon n'a pas tenu une prédication, ou bien Caïphe, le Caïphe n'a pas tenu une prédication là-dessus, ou bien Simon. C'était une réalité, la parole est devenue chair. Simon a pris notre Seigneur entre ses bras. Il pouvait dire, Seigneur, maintenant, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le retour du Seigneur ne sera pas une prédication, ne sera pas une imagination, ne sera pas un enseignement, ne sera pas une révélation que quelqu'un apporte. Aujourd'hui, on va même jusqu'à... on ne peut même pas croire ce qu'ils racontent. Je ne devrais presque pas le dire. Mais pour eux, toute la malédiction de la terre est déjà ôtée. Et ils sont déjà, avant la chute de l'homme, ils ont déjà été ramenés avant la chute de l'homme. Comme si avant la chute de l'homme, il y avait eu de la malédiction. Et bientôt même, ils racontent que les enfants noirs resteront blancs. Ils dépassent toute limite, toute folie. Pour notre compréhension humaine, c'est incompréhensible. Et si je le dis cela ici aujourd'hui, c'est pas pour vous affliger, mais c'est pour vous charger avec ces choses. Mais c'est juste pour vous montrer que le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons doit être combattu avec une armure forte. Ici dans Éphésiens 6, nous lisons concernant l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, et plutôt le casque du salut et l'armure de Dieu. Alors c'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas des révélations, pas des songes qu'on raconte, pas des choses à moitié que nous avions durant toutes ces années, mais la révélation parfaite de la parole de Dieu dans l'Église du Dieu vivant, que des hommes puissent se confier à cela, compter sur cela et pas être seulement des auditeurs, mais des receveurs. Cela m'attriste parfois parce que, en grande partie, nous traitons une prédication comme un exposé qui est tenu, comme si on aurait affaire à quelqu'un qui viendrait ici avec beaucoup de mots et de vocabulaire étranger, comme si ce serait un professeur qui nous tient un exposé. Une prédication n'est pas un exposé. C'est la parole, c'est une parole de Dieu qui nous est adressée. C'est Dieu qui parle avec nous. Et cette parole de Dieu ne doit pas tomber dans le sable en parole. Mais en nous, elle doit produire la foi, susciter la foi pour que la puissance de Dieu, créatrice et rédemptrice de Dieu, puisse être manifestée pendant la prédication, pendant qu'on est sous l'écoute et que nous sommes seulement des auditeurs. Alors nous sommes aussi des spectateurs et nous n'avons pas part à ce que Dieu fait en fait. Qui souhaite de vous avoir part, être vraiment participant, qui vraiment souhaite expérimenter personnellement, recevoir personnellement, pas seulement écouter la parole, mais recevoir, pas ensuite l'écouter, ensuite pour en parler et dire « Oh, c'était merveilleux !» Mais pour écouter, croire et ensuite recevoir personnellement ce que Dieu nous a promis. Notre Seigneur n'a pas tenu d'exposer ça aussi. Mais lié à cela, il y avait le salut, il y avait la guérison, il y avait la délivrance, il y avait l'expérience et la bénédiction et le salut partout où il arrivait, où il était, où il allait. Ce n'était pas les longs discours ou bien les longues prédications, mais lié à cela, il y avait l'action divine de Dieu qui était manifestée en ceux qui étaient présents et qui avaient écouté. Ils n'ont pas seulement entendu, écouté, ils ont reçu quelque chose du Seigneur. Ils ont reçu ce qu'il leur disait. Et je crois que ce temps, nous voulons considérer ce temps actuel comme étant le temps dans lequel l'heure est venue pour ces choses. Qui attend même quelque chose de Dieu? Qui s'attend à vraiment recevoir? Pourquoi est-ce que nous venons à la réunion? Avec quelle disposition? Quelles sont nos attentes si le dernier week-end du mois, nous sommes ici à Zurich, rassemblés sous le coup de la parole de Dieu? Quelle est sincèrement ta réelle attente sincère, honnête et profonde? Est-ce que c'est seulement d'écouter une parole, une prédication, seulement lire quelques écritures et puis suivre une prédication que nous traitons, ou bien écouter un exposé de voyage, ou bien quelques remarques critiques? Oh, que Dieu, dans sa grâce, puisse être avec nous d'une manière que dans nos cœurs, nous dirions, oh Seigneur fidèle, Seigneur Dieu fidèle, nous allons sur l'écoute de ta parole pour t'expérimenter personnellement et pour recevoir de toi ce dont nous avons besoin. Il y a toujours, vous savez, la théorie et la pratique et la réalité. On peut, et par cela, sur cela, des livres ont été écrits. On peut écrire, parler de la justification, parler de la justification par la foi, de la foi par la foi, écrire et parler. La question, est-ce que nous l'avons personnellement expérimenté, la justification dont la Bible parle? L'avons-nous expérimenté personnellement? Est-ce que la parole en nous est devenue une réalité divine? C'est ainsi qu'on pourrait continuer avec chaque thème biblique, ou bien alors avec ce que Dieu a promis. Continuer et poser les mêmes questions. Nous voulons ici nous poser la question nous-mêmes. Avons-nous seulement écouté ces choses? Ou bien avons-nous seulement attendu à ce qui doit arriver bientôt? Ou bien est-ce que nous sommes dans nos pensées sous le coup de la parole de Dieu? Est-ce que nous nous attendons dans nos pensées à ce que le Seigneur personnellement pourrait se révéler, ou bien puisse se révéler en chacun de nous? On pourrait dire que le Seigneur ne s'est pas encore manifesté visiblement comme nous aimerions bien le voir. C'est possible. Mais je souhaiterais que hier, vous auriez entendu les témoignages à Salzbourg, en Autriche, de personnes qui étaient là pour la première fois. Comment est-ce que Dieu, parfois on penserait, mais rien ne se passe, n'est-ce pas? Il y en a qui, mais non, frères et sœurs, le Seigneur, l'Esprit de Dieu agit encore dans les réunions. Le Seigneur conduit encore les gens, dans la vérité, et encore il appelle du monde à sortir. Il fait sortir du monde. Le temps de la grâce n'est pas encore à sa fin, n'est pas encore passé. Au contraire, le point culminant du temps de la grâce, le sommet du temps culminant, arrive encore. Vous savez ce que veut dire grâce? Avoir été totalement justifié sans question de faute et de transgression ou bien pas encore, sans que la question de faute pourrait être encore posée. Comme le frère Branham, de manière claire, a parlé de la justification biblique. La justification divine dans ta vie veut dire que ton rédempteur, ton sauveur, a pris à porter tes fautes et ta condamnation, ton châtiment, tout ce qui t'aurait atteint, il a porté sur lui. Et que toi, tu as reçu par Christ, tu es devenu participant par Christ de la justice divine. Comme si tu n'aurais jamais passé péché. Dieu te déclare juste. Alors on dirait, mais qu'est-ce qu'en est de notre corps terrestre? Vous savez, celui qui vient du champ, il a déjà sa leçon pratique. Qu'est-ce qui se passe avec chaque grain de semence? Peut-être, tous ceux qui ne peuvent pas encore bien voir, on pourrait leur donner l'exemple d'une pomme de terre. Elle est mise en terre et vous savez ce qui se passe? Elle pourrit complètement. Elle pourrit complètement. Et si vous la regarderiez, vous vous sentirez très mal à voir l'état d'une pomme de terre qui a été semée. Mais de ce grain de pomme de terre complètement pourri, subitement quelque chose de nouveau se passe. À l'intérieur, il y avait un germe que la corruption n'avait pas le droit de toucher. Est-ce que vous comprenez? Quelque part, dans ta vie et dans ma vie, dans ton âme et dans mon âme, il y a un germe divin qui n'a pas été livré à la corruption et à la perdition, mais qui a été déterminé à recevoir et à manifester la nouvelle vie divine de Dieu par la grâce de Dieu, bien sûr, en toi. Bien sûr que nous pensons, mais qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, ce sont des choses très précieuses, très glorieuses. Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15? Semer méprisable. Un corps mortel est semé. Semé infirme. Mais il ressuscite. Glorieux. Plein de force. Alléluia. Pour vivre, c'est seulement possible par la mort. Nous devons être morts avec Christ pour pouvoir vivre avec lui. Et si de mon corps, un jour, plus rien ne devrait rester, comment? Avec un tel grain de pomme de terre. Cela ne me dérange pas. Dieu, dans sa loi, a déterminé la vie, la mort et la résurrection. Chaque année, Dieu, dans toute la nature, nous tient une prédication. Ce qui est mort, ce qui sans force, sans sève, sans fleurs, sans feuilles, sans fruits, était mort. Le prochain printemps réapparaît. Le prochain printemps réapparaît. C'est encore là. Mais bien aimé, les Saintes Écritures disent la mort a rendu les morts et la mer a rendu les morts et tout a rendu les morts. Il y a la première et ensuite la deuxième résurrection. Ne regardons pas au terrestre qui de toutes les manières est déterminé à seulement porter le divin tant que cela est à porter. Et ensuite, comme maintenant, le terrestre qui porte le divin, Paul l'écrit aux Corinthiens, nous portons ce trésor dans des vases terrestres. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons, et un jour, nous serons portés. Car, comme déjà dit, semé méprisable, ressuscité, glorieux, semé infirme, ressuscité plein de force, et ce corps corruptible revêtra l'incorruptibilité, parce que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et nous serons transformés à l'image du Fils de Dieu. Chaque parole de Dieu est certaine, est vraie. Aussi vrai que Jésus-Christ est venu dans un corps de chair et est mort selon le corps. Mais que son corps ne pouvait pas voir la corruption, parce que le prophète David, par l'esprit, l'avait dit. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Voie la corruption. C'est ainsi que le troisième jour, il est ressuscité des morts, le troisième jour. Mais bien aimé, que cela devienne une assurance divine, une certitude divine pour toi. Ce corps terrestre, cette enveloppe terrestre devient toujours plus infirme et faible. Nous le remarquons, nous qui avons pris de l'âge, toujours mieux. Mais de la même manière, nous savons aussi que l'heure de Dieu arrive et que tous, nous serons rétablis dans la fraîcheur de notre jeunesse. Plus de traces de cette enveloppe qui vieillit et qui se corrompt, mais tout sera nouveau, à l'image du Seigneur, dans toute éternité, jeune, en bonne santé, joyeux, au ciel. Moi aussi, je serai l'un des hommes les plus joyeux, avoir surmonté tout, vaincu tout, achevé le combat. Pensez au frère Branham, à ce film de frère Branham, quand il disait un jour, pour la dernière fois, j'aurai ouvert ma Bible. Et alors, j'irai à toi, dans ta gloire. Et tu nous serviras à cette grande table et tu essuieras les larmes de nos yeux. Cette vie terrestre est passagère, est temporaire, mais nous portons en nous le divin. Et le divin est éternel. Et c'est peut-être raison qu'il ne peut pas être englouti par le terrestre. Parce qu'il est temporaire. Non, c'est le contraire. C'est le terrestre, le temporaire qui sera englouti par l'éternel, par ce qui est éternel, par le divin. Nous voulons résumer ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous vivons proche du retour de Jésus-Christ. Et nous devons nous attendre à ce que le diable, dans le marché religieux, apporte la confusion partout d'une manière que personne ne peut retrouver son chemin, si ce n'est que Dieu l'a ramené à lui. Il y a de telles personnes. C'est de telles personnes qu'il veut faire de nous. Il veut faire de nous de telles personnes qui ont été ramenées à Dieu, qui marchent dans ses voies, qui aiment sa parole et qui marchent et sont sanctifiés. Et il veut les sanctifier dans sa vérité. Les derniers jours sont là. Et je peux vous dire, les choses vont encore s'aggraver. Car la Bible dit clairement que plus le temps passe et plus ils feront des choses encore plus graves. Ils sont séduits, trompés, et ils séduisent et trompent d'autres personnes, d'autres, parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu, séparés de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'adversaire, l'ennemi a fait autrefois avec Ève? Il ne lui a pas parlé son propre langage, hein? Non. Il a utilisé les paroles qui étaient sorties de la bouche du Seigneur. Et il en a tordu le sens et il les a redonnés à Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à l'intérieur le poison, la mort et la séparation avec Dieu. L'ennemi de nos âmes ne vient jamais avec ses propres paroles, avec son propre langage. Il prendra toujours ce que Dieu a dit, mais il le sortira de son contexte, tordra le sens et l'expliquera à sa manière. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours seulement d'aller d'écriture en écriture, de comparer chaque parole avec une autre parole de Dieu et de rester dans l'harmonie des écritures sans sortir C'est comme ça que nous pourrons reconnaître tout le destin de salut de notre Dieu et serons capables de faire de discerner de quel esprit un homme parle. Très important. Nous l'avons lu. Pas seulement de sonner les Écritures, examiner pour voir tout est, si tout est exact, mais d'éprouver les esprits, pas les hommes. Les hommes sourient et on veut être poli, on veut blesser personne. Et alors on écoute ce que la personne prêche et subitement, ça peut être trop tard déjà d'avoir écouté. Non. Ici, il y a une ligne de séparation. L'une, elle est de Dieu et l'autre, elle est antichrist. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'est pas dans le contexte, est contre Christ, est antichrist. Et tout ce qui est contre lui est antichrist. Anti veut dire contre. C'est peut-être donc que c'est important, justement, dans ce temps de séduction à haut niveau, il faut tenir garde, prendre garde, veiller et lire la parole de Dieu dans la prière et toujours de nouveau dire, conduis-moi par ton esprit en accord avec ta parole, car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Moi, je ne m'étonne pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que notre Seigneur, dans Matthieu 23 a dit, où serait un prophète que vous n'auriez pas tué? Où un homme envoyé de Dieu que vous n'aurez pas persécuté? Ou bien que vous n'aurez pas persécuté et lapidé en commençant avec Abel jusqu'au sang de Zacharie qui même a été tué à l'autel des holocaustes. Qu'est-ce que c'était? Le diable voulait tuer la parole et il a tué ceux qui la portaient. Mais la parole nous est restée, malgré tout, louée et exaltée soit le Seigneur, le nom du Seigneur. Même après que Frère Branham ait été pris à la maison, la claire et la vraie parole de Dieu, éclaircie par le Saint-Esprit, nous a été apportée, qui met les choses à jour dans le royaume de Dieu et nous a été conservée dans sa forme originale. Et c'est comme ça aussi avec tous les autres prophètes. Ésaïe et beaucoup ont été tués. Mais le prophète Ésaïe, avec ses 66 chapitres, il vit encore aujourd'hui. Alléluia! Loué et exalté soit notre Dieu de ce que ça, c'est une réalité divine. Mais la colère de l'ennemi ne s'est pas jetée contre les sacrificateurs, contre tous ces scribes et tout ça qui savaient comment on se comporte, n'est-ce pas? Mais toujours contre les porteurs de la parole de Dieu. Et quand j'observe, je considère cela, alors je me réjouis de tout mon cœur. Même quand je vois la colère de tout l'enfer et de l'ennemi, alors mon cœur se réjouit parce que je sais qu'il ne s'agit même pas de moi en tant qu'un homme sans valeur, Ewald Frank, mais il s'agit de ce que la parole de Dieu, d'une manière, d'une manière quelconque, soit détruite et tuée. Et ça, cela ne réussira pas à l'adversaire, à l'ennemi. Il échouera. Aujourd'hui, il y a assez d'hommes dans lesquels la parole révélée, déjà, est devenue une révélation de Dieu. Et un frère Franck pourrait aujourd'hui déjà repartir à la maison. Alors malgré tout, il aurait assez fait en sorte que la semence, que la parole de Dieu, en tant que semence, restera dans le cœur de ceux qui ont été déterminés à voir la gloire de Dieu et qui ont reçu cette parole. Que nous tous qui sommes ici aujourd'hui et tous ceux qui aiment le Seigneur et qui invoquent son nom et avec un cœur sincère aspirent à être auprès de lui dans la gloire, qu'ils puissent recevoir cette semence incorruptible de la parole de Dieu dans leur cœur. Alors, nous dirons, le corps, ils peuvent le tuer, mais l'âme, ils ne pourront pas. Car c'est dans l'âme que la semence incorruptible de la parole de Dieu, qui ne peut se corrompre, qui ne peut pourrir, est dans ton âme et dans mon âme. Croyons cela de tout notre cœur. Et vous verrez que notre vie sera bénie nouvellement. Et notre confiance à Dieu grandira. Et nous allons mépriser ou bien alors un peu mieux résister aux choses terrestres qui nous attaquent et qui viennent contre nous, qui viennent jusqu'à ce que nous passerons de la foi à la vue. Ça, c'est notre décision ferme. Et Dieu, lui, s'est décidé pour nous, nous a choisi, nous a élus avant même la fondation du monde. Il nous a choisi, il nous a élus et avec par amour, il nous a attirés à lui. Et pour faire de nous quelque chose qui célèbre la grâce de sa gloire. Nous ne sommes pas seulement des enfants d'hommes. Par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et quand l'achèvement de son œuvre aura lieu et qu'il reviendra et que nous le rencontrerons dans les airs et que nous le verrons tel qu'il est, alors, subitement, nous nous regarderons l'un l'autre et nous nous serons semblables. Nous serons semblables à lui. Ça, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plein salut pour toi et pour moi, pour tous ceux qui croient. Pas seulement une promesse, mais de Dieu la certitude. Il a donné la promesse. Et il accomplira. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière.